Bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver, l'ouvreuse Louis-Marie Laurent Martin. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Louis-Marie, bonsoir Guillaume, bonsoir à tous.
Vous êtes arrivé sous une petite pluie qui a adouci le temps.
Un petit crachet breton sur Toulouse. C'est agréable, ça rafraîchit les idées.
Oui, question de rafraîchir, aujourd'hui, les températures ce matin étaient particulièrement rafraîchissantes.
Un temps idéal pour passer quelques heures au cinéma.
Et effectivement, on se réchauffe et surtout on passe un bon moment avec les films dont on va vous parler en particulier et qu'on va vous conseiller d'aller voir, en tout cas pour certains. Et vous, vous allez nous conseiller de voir des films à la télé, Laurent, car c'est votre spécialité, la télé vue du canapé, le ciné vue du canapé.
Le ciné à la télé, c'est ça, c'est ma chronique. Et j'ai sélectionné 5 films pour passer une bonne soirée de cinéma tranquillement au chaud, chez soi, avec une bonne tasse de thé ou de café chaud, sous le plaid, dans le canapé, avec le chat qui ronronne, enfin tout ça quoi. Et il y aura un conseil de lecture, une bande dessinée, mais je passerai le ballon rond à Guillaume.
Voilà. Ah oui, oui, oui.
On tente des choses, on fait des...
C'est un travail d'équipe.
Voilà, un travail d'équipe, exactement, ouais. Nous ne sommes pas une bande dessinée, nous sommes une bande du ciné.
Oh, c'est merveilleux. Extraordinaire, celle-là, on la garde, ouais. On la note.
Je suis content de celle-là, oui.
Ouais. Allez, nous aussi, on est content pour vous.
En fait, un copyright.
Et content pour nous. Vous l'avez entendu, il est avec nous également, notre mécano de la cinématographie. Son retour de manivelle est célèbre sur toute la bande FM et ailleurs, même sur le DAB maintenant. Guillaume Sidom, bonsoir.
Bonsoir Laurent, bonsoir Louis-Marie, bonsoir à tous et à toutes.
Faites-nous rêver.
Alors ce soir, un remake et un polar auditif, 15 ans après Blow Up, filmer l'échec avec Maestria, tel est le cœur de ce thriller. Hommage croisé donc au Blow Up d'Antonioni, mais aussi aux conversations secrètes de Coppola. Et j'aurai donc aussi un conseil de lecture, Laurent vient de vous le dire. Une bande dessinée excellente tirée d'un livre, un roman très connu dont l'adaptation non moins excellente est actuellement à l'écran.
Et à propos de conversations secrètes, on en parlera tout à l'heure. Vous savez que quelques films de Francis Ford Coppola ressortent sur les écrans, justement dans des copies restaurées et qu'on ne saurait trop vous conseiller d'aller voir. D'ailleurs, on va parler de l'un d'entre eux tout à l'heure. Notre homme de loi des séries, celui qui préside au tribunal des séries, Grégory Combe va nous parler ce soir d'une série de Canal+, dont il avait donné le nom la semaine dernière quand il avait abordé Nero, qu'on pouvait voir sur Netflix. Cette fois-ci donc, ce sera Les Sentinelles à voir sur Canal+. Une drôle de série, une espèce de, comment dit-on,
une série steampunk.
Voilà, c'est steampunk.
Ça se passe en 14-18 avec des choses futuristes, voilà, c'est du rétro-futurisme, enfin voilà, c'est du steampunk. Ben Jules Verne par exemple, c'est du steampunk, voilà, c'est le précurseur, il a inventé au 19e siècle des machines qui n'existaient pas encore.
Et qui existent maintenant, pour certaines d'entre elles en tout cas. C'est pour tout à l'heure, notre homme de loi des séries s'occupera de cette série de Canal+, Les Sentinelles. Après, dans le panier de l'ouvreuse, vous retrouverez l'affiche de la semaine qui sera scrutée par l'ouvreuse et vous, Laurent Martin. Il y aura les reprises sur le petit écran. Là aussi, vous venez de nous mettre l'eau à la bouche, mais il y a aussi des films à voir et à revoir surtout sur le grand écran. Et puis, comme le veut l'habitude et la coutume, les coups de cœur, c'est pour la fin de l'émission, car on a toujours des films, des festivals, voire des expositions. J'aime bien voir des expositions qu'on a envie que vous alliez voir de notre part. On est ensemble jusqu'à 20h. Bon début de soirée avec nous. Allez, vous êtes confortablement installé face à l'écran. N'oubliez pas de regarder le bas de l'écran parce que cette fois-ci, vous allez avoir besoin des sous-titres.
It began with a sound that no one was ever supposed to hear.
Yeah, that's what I heard just before the tire blew out. You're right, it was a shot.
He recorded a murder.
There are still loose ends, witnesses. The girl, I've decided to terminate her. Terminate her. Terminate her.
Débrouille. bruits de tir, des coups de feu, une voiture qui dérape, et puis une voix d'outre-tombe qui dit « ça commence par un son qu'il n'aurait pas fallu entendre et il aurait enregistré un meurtre ». Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, Guillaume Sidom ?
Eh bien, le décor est posé pour Blowout, film de Brian De Palma de 1981 avec John Travolta, Nancy Allen notamment. Musique signée Pino Donaggio que vous entendrez à la fin de ma chronique. Blowout, comme l'éclatement d'un pneu, Blowout. Évidemment, transposition de Blow Up, il est au son ce que le film d'Antonioni de 1966 est à l'image. Et 15 ans plus tard, le photographe est devenu ingénieur du son. L'onirisme étrange d'une scène d'accident, vous l'avez entendu, en pleine nuit, dans une nature maléfique où John Travolta capte de façon quasi surnaturelle chaque son. Le film s'ouvre donc avec une mise en abîme fascinante qui nous invite, nous spectateurs voyeurs, à embrasser le regard subjectif du tueur. Le pitch. Preneur de son, Jack Terry enchaîne donc les séries Z, une nuit où il va enregistrer des sons d'ambiance. Il assiste donc à un accident de voiture. Et il va sauver la vie de Sally, sa passagère. L'identité du conducteur décédé crée la stupeur. Il s'agit du gouverneur Mac Ryan, politicien pressenti pour être le prochain président des États-Unis. Désormais persuadé qu'on a tiré sur la voiture, Jack réécoute de façon obsessionnel les bandes de l'enregistrement.
Après une série de succès, Carrie, Obsession, Pulsion, Brian De Palma connaît un premier revers en 1982 avec un thriller à l'étrangeté absolue.
Oui, une petite perle au croisement des plus grands cinéastes du genre, ses modèles, hein, Dario Argento et ses Frissons de l'angoisse, Coppola donc pour Conversation secrète, Antonioni donc et son Blow-up, ou encore Sir Alfred Hitchcock dont l'ombre du maître du suspense ne quitte jamais l'écran. Blood se démarque donc des produits de l'époque dans sa vision expérimentale d'un cinéma ultra référentiel. Dans le film, l'utilisation du cinéma se fait donc l'écho du travail d'Antonioni sur Blow Up, je l'ai dit, mais ici le témoin ne maîtrise pas les éléments sonores mais bien le visuel à travers son objectif de photographe et de cinéma. Il en est systématiquement question, comme pour mieux vous manipuler. Dispersion d'indices multiples au gré de split screen, de jeux de miroir éloquents, De Palma est devenu son propre maître, s'appropriant plus que jamais son style. À travers l'histoire de cet ingénieur du son spécialisé dans les films d'horreur, c'est l'essence même du 7e art. Tant du point de vue artistique que technique, qui est mise en exergue jusqu'à vous offrir, vous spectateurs, la plus belle des leçons de cinéma au cours d'une scène d'anthologie où John Travolta, en technicien hors pair, fabrique un film et donne vie à des images pour en révéler l'illusion. Pour un cinéaste passionné par le pouvoir de l'image, Blowout est un paroxysme stylistique.
Cependant, Blowout ne s'arrête pas à ce formidable exercice de style en forme d'explication texte, c'est paradoxal, de l'image.
Oui, vous y retrouvez les thèmes chers à De Palma, conspiration politique, culpabilité, paranoïa ou encore faux-semblant, dont il s'est toujours servi pour nourrir ses thrillers, genre dans lequel il excelle. À cela s'ajoute que le film se pose comme étant le plus cynique et peut-être le plus pessimiste de son auteur. Après avoir compris de quoi il en retourne, Jack cherche à faire éclater la vérité, mais personne ne l'écoute et est déterminé. Il va donc mettre en danger la vie de la femme qu'il aime pour prouver qu'il a raison, et ce, à n'importe quel prix. À l'arrivée, le film est un échec commercial énorme, un moment qui marque le réalisateur à jamais. Pourtant, Blowout a depuis été largement réhabilité et a droit à une deuxième vie, notamment grâce à Quentin Tarantino, qui le classe parmi ses films préférés et va réutiliser la musique de Pino Donaggio dans Boulevard de la Mort. Une œuvre qui synthétise à la fois dans le fond comme dans la forme tout le cinéma de De Palma, de ses angoisses à ses obsessions, et sans conteste son film le plus personnel et le plus audacieux sur le plan esthétique. Œuvre édifiante, Blowout reste également aujourd'hui l'un des plus grands films de John Travolta, la star de Grise et de La Fièvre du Samedi Soir, est alors au sommet entre thriller politique et réflexion sur le cinéma, un grand film et un sommet pour De Palma. Retrouvez donc ce samedi 22 novembre 18h à l'auditorium du Musée des Abattoirs à Toulouse dans le cadre du cycle Remake proposé par la Cinémathèque de Toulouse, visible jusqu'au 23 novembre prochain. Retrouvez toute la programmation sur lacinémathèquedetoulouse.com, en Blu-ray et DVD chez Carlotta, et d'ici là, ouvrez l'œil et le bon, et surtout, allez au cinéma.
magnifique musique signée Pino Donaggio pour le film de Brian De Palma, Blowout. On y est là, la mélancolie, on a ce petit pincement au cœur. On sait que ça va mal finir, on sait que ça a mal fini. Et cette maison ne fait que, cette musique ne fait qu'amener les larmes aux yeux.
Sur Radio Présence.
Laurent, l'ouvreuse scrute l'affiche de la semaine avec vous.
À l'affiche cette semaine, Dossier 137, le nouveau film de Dominique Moll, avec Léa Drucker, Johan Blanc et Gusagui Malanda. Le dossier 137 est en apparence une affaire de plus pour Stéphanie, enquêtrice à l'IGPN, la fameuse police des polices. Une manifestation tendue, un jeune homme blessé par un tir de LBD, des circonstances à éclaircir pour établir une responsabilité. Mais un élément inattendu va troubler Stéphanie, pour qui le dossier 137 devient autre chose qu'un simple numéro. Pour ce fait divers, Dominique Moll adopte cette fois le point de vue d'une enquêtrice de l'IGPN, incarnée parfaitement par Léa Drucker. Et alors que les flics impliqués plaident la légitime défense, elle tente de faire toute la lumière donc, sur cette affaire, quitte à se mettre ses collègues à dos. Une affaire fictionnelle qui s'inspire évidemment de la réalité et que Dossier 137 s'obstine à traiter avec une froideur administrative. C'est vraiment un cinéma de bureaux, de formulaires à remplir, de scènes d'interrogatoire, presque documentaire. Un ballet paperassier, hein, parfois ponctué d'éléments de thriller, avec des filatures comme ça entre deux rayons de supermarché ou dans le couloir du métro. Le dispositif peut vite trouver ses limites, tant dans l'incarnation, hein, même si Léa Drucker est assez impeccable, hein, et parvient à s'extraire de cette mécanique, que dans le traitement des violences policières et d'une institution qui s'auto-protège. Si le spectateur aura peu de doutes sur la culpabilité des agents, le film joue à l'évidence la prudence pour éviter de se faire taxer d'anti-flic. Louis-Marie, vous avez rencontré le réalisateur Dominique Moll.
Et oui, et avec lui, nous avons parlé, bien sûr, du sujet de Dossier 137. Et depuis un moment, dans tous ses films, la plupart de ses films, il n'avait pas abordé la police. Et puis d'un coup, il y a 3 ans, c'était La Nuit du 12.
Très bon film.
Il avait passé au crible la PJ, là, puisqu'il était question d'un meurtre qui ne sera pas résolu, on ne trouvera pas le coupable, La Nuit du 12. Donc, et cette fois-ci, il s'intéresse, donc, vous l'avez dit, à la police des polices. La police des polices, qui est l'IGPN.
Les bœufs carottes, quoi.
Les bœufs carottes, oui, vous savez pourquoi. Puisque,
ils font mijoter, non, c'est ça ?
Exactement, c'est ça, ouais. Ils font mijoter les présumés coupables, en tout cas ceux qui sont les suspects sur lesquels ils enquêtent. Toujours est-il qu'il a voulu donc explorer, après la PJ, je le disais, l'IGPN, la police des polices, une police mal aimée par tout le monde. Elle est mal aimée par les autres policiers, mais elle est aussi mal aimée par la société, par la population. Pourquoi ? Parce que on les accuse aussi de protéger leurs collègues. Donc ils sont vraiment très 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 mal placés.
C'est l'un des rares métiers où il y a quand même une police au-dessus de la police. Quoi. Enfin, nous, on n'a pas la police de la... Quoi que si, l'ARCOM, peut-être, la police de la radio, quelque part.
Oui, mais c'est-à-dire que c'est une police qui veille, justement, au bon déroulement de ce que font les autres policiers. Oui. C'est pour ça qu'on dit la police des polices, l'IGPN. Il y a l'équivalent aussi...
En justice.
Il y a l'équivalent aussi chez les gendarmes. Hein.
Oui, et chez les juges.
Oui, mais restons avec la police. Restons avec la police. Ne parlons pas de juges et revenons à Dominique Moll qui cherchait à raconter une histoire sans juger. C'était ça, vous l'avez dit, une des difficultés auxquelles il était confronté. Dominique Moll.
Je pense que l'envie, c'est quand même d'abord de raconter une histoire. Ça reste quand même un film de genre, une enquête policière où le spectateur doit être pris par l'histoire. Mais l'avantage du film de genre, c'est justement qu'on peut y glisser après des thématiques et des sujets sociétaux divers et variés. Déjà, enfin, il y a une première démarche qui est de faire comprendre le fonctionnement d'une institution. En tant que citoyen, on a envie, moi en tout cas en tant que citoyen, j'ai envie de comprendre comment ça marche. Même si j'avais pas fait le film, le fait de pouvoir aller à l'IGPN, de les observer, en plus que c'est censé être un outil de contrôle démocratique, donc ça concerne quand même tout le monde. Donc il y a ça, et le fait de raconter ça du point de vue d'une enquêtrice de l'IGPN, qui est policière, mais qui enquête sur des policiers, qui est en contact avec des victimes, permettait aussi de se mettre à un point de vue qui permettait davantage de montrer cette complexité.
Alors justement, le réalisateur, vous l'avez dit, met en avant la position délicate de son héroïne, donc Stéphanie, l'enquêtrice chargée de cette affaire de tir de LBD qui a blessé grièvement un manifestant. Était-il nécessaire de tirer cette balle de LBD? C'est justement là le nœud de l'affaire. Donc cette position est délicate puisqu'elle doit enquêter sur des collègues tout en restant impartiale. Ça, c'est difficile. Ensuite, elle est dans un contexte social explosif puisque c'est le moment des Gilets jaunes. Tiens, on en a parlé du point de vue des Gilets jaunes avec le film de Thomas Krutoff, Les Braises. Là, on était de l'autre côté. Là, on est côté des policiers. Et alors, Moll arrive à éviter le manichéisme et il trouve et cherche un équilibre entre la nécessité de protéger les citoyens et celle de ne pas accabler des forces de l'ordre épuisées et mises sous pression par leur hiérarchie. Parce que là aussi, ils tirent, mais on leur ordonne de le faire. Hein. Et pour certains qui étaient dans le maintien de l'ordre, dont c'est pas la spécialité, ils sont plus occupés à arrêter des délinquants plutôt que d'empêcher les gens de commettre des voies de fait sur la voie publique. Ceux qui sont en mesure de faire ça dans la police, c'est les CRS. Les autres, c'est pas leur cœur du métier. C'est pas leur fonction première. Alors, et puis, il y a autre chose aussi que questionne dossier 137, c'est la surveillance omniprésente dans l'espace public. Alors, il y a les caméras, bien sûr, il y a les smartphones, puisque maintenant tout le monde a un smartphone, tout le monde peut filmer ce qui se passe autour de lui.
Sauf Laurent.
Sauf Laurent. Mais enfin, la grande majorité des gens, sauf Laurent. Et puis, il y a qui restent des outils essentiels pour établir les faits, mais qui sont inquiétants par rapport aux libertés individuelles, quand même, c'est ça. Alors, vous l'avez dit, il y a quelques défauts dans le film, le didactisme, des efforts souvent maladroits pour humaniser les personnages, et puis il y a quelques facilités scénaristiques, mais malgré tout, Dominique Moll arrive à signer un film tendu, captivant et réaliste, et puis surtout, Léa Drucker est parfaite en policière intègre, femme tenace, mère engagée, Et c'est finalement un regard qu'offre Dossier 137, un regard profond et rigoureux sur une France qui est divisée finalement entre par des tensions qui sont toujours vives et qui sont toujours là. Les braises.
Les braises.
On y revient. Là, c'est vrai. Dominique Moll signe Dossier 137.
Vous noterez qu'on parle maintenant de vidéoprotection plutôt que de vidéosurveillance. Le terme fait moins peur.
Voilà. Effectivement. Parenthèse.
La petite revue de presse, je sais que vous êtes friand de cette revue de presse, vous aimez ça. Bande à part a beaucoup aimé Dossier 137, porté haut par Léa Drucker, aussi précise, vive que lumineuse, et un casting en tout point impeccable, est un grand film dont la résonance vous hante longtemps après son générique achevé. Bon, ils vont peut-être un peu loin. Abus de ciné a bien aimé aussi. Au-delà de son talent pour la mise en scène et la structure, Dominique Moll fait aussi preuve d'une grande intelligence dans son propos, refusant de fustiger l'un ou l'autre parti, comme on l'a dit. Bémol pour Criticat.com, la mise en scène n'est pas ici le vecteur de regard, mais l'instrument de son évidement. À l'affiche aussi cette semaine, on peut voir Jean Valjean, le nouveau film d'Éric Bénard, avec une très belle distribution. Grégory Gadebois, Bernard Campan, Isabelle Carré, qu'on adore, Alexandra Lamy, Albert Dupontel et Dominique Pinon. Du 115, vous connaissez l'histoire, Jean Valjean sort du bagne, brisé, rejeté de tous, errant sans but, il trouve refuge chez un homme d'église. Et face à cette main tendue, Jean Valjean vacille, et dans cette nuit suspendue, il devra choisir qui il veut devenir. Éric Bénard choisit ici donc de se concentrer sur la genèse du héros de cette œuvre monumentale et raconter comment cet homme, ravagé par la colère et la rancune, né de ses 20 ans de bagne, va se métamorphoser. L'histoire, bien sûr, c'est Les Misérables de Victor Hugo. Un plaidoyer pour la seconde chance. La puissance de Grégory Gadebois est digne de celle de ses glorieux prédécesseurs. On passe à Jean Gabin ou Lino Ventura qui ont incarné ce fameux Jean Valjean. Hisse le film sur des bases hautes et offre de vraies grandes scènes, dont l'impressionnante séquence du bagne. Louis-Marie, vous n'avez pas chômé cette semaine. Vous êtes sorti du bagne. Vous êtes allé voir Éric Bénard, le réalisateur.
Oui. Éric Bénard, donc, qui s'attaque aux Misérables. Mais alors, Les Misérables, pas dans leur intégralité, parce que Les Misérables, c'est je crois qu'il doit y avoir 10 tomes, cette histoire extraordinaire signée par Victor Hugo, et il ne s'occupe que du tout début.
La genèse du héros,
de celui dont qu'on va suivre tout au long de l'histoire, mais il se focalise juste sur le moment où Jean Valjean sort du bagne, et plus particulièrement encore les 24 heures décisives qu'il va passer, Jean Valjean, chez l'évêque Bienvenu. Parce que c'est de ça dont il est question, et c'est au contact de cet évêque Bienvenu et de la façon dont il a abordé sa fonction et de ce qu'il est devenu au fil du temps, je parle de l'évêque Bienvenu, que ce que Jean Valjean va vivre va être déterminant pour la suite de ce qu'il est, de ce qu'il est devenu et de ce qu'il va devenir. C'est 19 ans de bagne, et il sort de là habité par la vengeance, surtout qu'il a été envoyé au bagne pour avoir volé du pain pour nourrir sa famille. Donc c'est encore plus terrible de vivre le bagne et vivre comme il était à l'époque. C'est assez traumatisant, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vous propose d'écouter Éric Bénard qui nous explique que son personnage, que Valjean, quand on le découvre sur la route, prêt à arriver chez l'évêque Bienvenu, et qu'il est dépourvu de la parole.
Jean Valjean est un personnage qui n'a plus la parole. C'est devenu un caillou. Et un caillou dangereux. Donc je voulais montrer ça. Et je voulais qu'à la fin du film, la dernière séquence, il a enfin la parole, puisque c'est lui qui a la dernière voix off. Et il dit 10 mots. Donc c'est l'histoire d'un homme qui est enfermé dans une gangue de colère et qui n'est plus capable d'avoir des contacts avec les autres et qui va retrouver la capacité à tenir compte de l'existence de l'autre. Et pour ça, il ne fallait pas que le mec au début ait une facilité de langage où il parle avec tout le monde et que tout soit simple. Au contraire, tout le monde est son ennemi.
Eh oui, c'est justement ce qui habite Jean Valjean et qui va arrivé, grâce au contact de ce qu'est cet évêque bienvenu, va changer. Alors, la mise en scène de Bénard est plutôt sobre et épurée, et il s'appuie sur une photographie en clair-obscur. Alors, il joue sur les couleurs, justement, je disais clair-obscur, parce que même c'est à la fin qu'on revoit les couleurs. Tout le début du film est pratiquement en noir et blanc. Et c'est le moment où on sent que, en fait, il va se passer quelque chose chez Jean Valjean, qu'on retrouve la couleur. Alors, les séquences du bagne sont saisissantes parce qu'elles ont été tournées dans les carrières de craie des Baux-de-Provence, qui sont célèbres parce que ces carrières de lumière qui servent de, maintenant elles ne sont plus des carrières de craie, mais elles sont un endroit où on fait des spectacles, et c'est assez saisissant. Et alors, on joue justement le clair-obscur, et les moments de ces flashbacks, où on voit Valjean au bagne, sont éblouissants dans le sens où on est ébloui, ouais, par cette lumière.
Très illuminé, ouais.
C'est très illuminé. Et qui montre justement la dureté visuelle et physique, et donc le poids écrasant du passé sur lui. Alors évidemment, Gadebois est bon. Il livre une interprétation en retenue de Valjean. Bernard Campan est extraordinaire.
Est-ce qu'il fait pas passer, le problème avec Bernard Campan, est-ce qu'il fait pas passer à Skippy le kangourou quand il jouait dans les Inconnus?
Non, pas du tout. Non, là pour le coup, non. Et puis, à ces deux hommes, il faut rajouter les deux autres interprètes. Alexandra Lamy, qui joue le rôle de Magloire, la servante de l'évêque.
Qui n'est pas convaincu
Non, pas du tout.
De la gentillesse de Valjean. Hein.
Non, il faut le foutre dehors.
Il n'y aura que des problèmes avec lui.
Il peut vous tuer, il peut vous voler. Et puis, il y a Isabelle Carré.
Formidable.
Et qui est Baptistine, la sœur de l'évêque. Alors, elle penche plus du côté de ce que pense son frère, l'évêque, et elle donne toutes les deux une épaisseur à leur personnage qui leur permet d'exister, justement. C'est un récit de rédemption d'une belle intensité dramatique.
Et pour ces deux films, juste, vous pouvez retrouver l'excellente chronique de Louis-Marie Solaire, mercredi cinéma, sur radioprésence.com.
Oh, il est trop bon avec moi, ce Guillaume Sidom.
Le film est très religieux, finalement.
Oui, d'une certaine façon.
Petite revue de presse. Le réalisateur retrouve Grégory Gadebois dans un film austère et volontairement dépouillé, selon La Croix. La Voix du Nord, bien aimé aussi. On pourra s'agacer de dialogues très écrits, mais Éric Bénard tient quelque chose qui a l'avantage de ne pas lâcher le chemin tortueux vers la lumière. Paris Match n'a pas aimé. Dans cet exercice théâtral à la limite de l'épure, façon cinéma d'auteur radical, rien ne va. Les scènes de bagne, stylisées à l'excès, frôlent le ridicule. À l'affiche aussi cette semaine, un ovni, l'arbre de la connaissance, d'Eugène Green. C'est l'histoire de Gaspard, un adolescent de Lisbonne, qui tombe entre les mains de l'ogre, un homme ayant fait un pacte avec le diable. Il utilise le garçon pour attirer des touristes qu'il transforme en animaux pour les manger. Gaspard s'échappe avec un chien et une ânesse dont il va tomber amoureux, pour un public averti. Si vous aimez les ovnis ou si vous ne les aimez pas, attention. Oui, Marie, vous avez rencontré Eugène Green.
Ah oui, c'est...
un personnage.
Ah oui, c'est un personnage, oui. C'est un personnage... Il a du métier. Alors, il entretient, pour parler un peu de lui avant de parler de son film, un certain mystère sur les premières années de sa vie. On ne sait pas trop. On sait qu'il est d'origine américaine, ça c'est certain. Et il a débuté sa carrière artistique comme peintre. Et puis, à la fin des années 70, il s'en va vers le théâtre. Il fonde d'ailleurs une compagnie dramatique qui s'appelle le Théâtre de la Sapienza, comme disent les Italiens, et il veut redonner au théâtre baroque ses lettres de noblesse. Alors, il fait plein de choses, il est à la fois dramaturge, écrivain, poète, et c'est en 2001 qu'il se lance dans le cinéma avec un film, Toutes les nuits, une œuvre stylisée qui a quelque chose à voir avec Bresson. Donc, vous voyez que c'est un cinéma exigeant et qui a eu le prix Louis de Luc du meilleur premier film. Suivront d'autres films qui restent malgré tout, même s'ils ont été auréolés de récompenses, un peu mystérieux, puisque le cinéphile, même à moins d'être vraiment très à l'affût de ce genre de réalisateur, connaissent peu Eugène Green. Alors cette histoire dont vous avez parlé, Laurent, à savoir cet arbre de la connaissance où on est à Lisbonne, l'histoire d'un jeune adolescent qui tombe entre les mains d'un ogre, de l'ogre, qui a fait un pacte avec le diable et qui a la possibilité de transformer les
touristes en animaux.
Les touristes.
Pour les manger en plus.
Les touristes, les hommes en général, mais ils en profitent. C'est surtout les touristes.
Une charge contre le tourisme.
Oui, le surtourisme à Lisbonne en particulier. Et il les transforme en animaux et il les mange. Et finalement, Gaspard va réussir à s'échapper avec un chat et une ânesse dont on imagine bien sûr qu'au départ ils étaient, ils étaient des êtres humains. Et l'ânesse, non, il va tomber amoureux de l'ânesse. Donc tout ça va continuer et il va faire même, vous n'allez pas le voir, vous allez me croire sur parole, même faire un voyage dans le temps. Mais comment a pu arriver dans la
germer cette idée
Eugène Green. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que je lui parlais de genre, il commence par répondre par le fait que c'est un peu tout, et il se pose lui-même la question. Écoutez.
Je n'analyse pas intellectuellement, je parle d'un noyau de fiction, comme on va sans doute me poser la question puisque c'est inévitable, et c'est comment d'où cela est parti. Et en l'occurrence, ça partait d'un sentiment personnel de révolte contre les transformations de Lisbonne que j'avais connues avant le tourisme de masse et puis après. Mais le noyau d'une histoire, ça me vient toujours dans un éclair comme ça. J'ai toujours l'impression que ça vient de dehors, que ce soit une muse ou le Saint-Esprit ou je ne sais pas quoi. Et un soir, je me suis trouvé seul. Et je suis allé dans un petit jardin que j'aime beaucoup, qui est ouvert jusqu'à minuit. Tout d'un coup, ça m'est venu l'idée d'un homme qui a le pouvoir de transformer les touristes en animaux et qui les abat. Et puis l'idée de qu'il enlève un adolescent qui doit servir d'appât. Un peu plus tard, c'est la deuxième partie qui m'est venue l'idée. Et donc, Donna Maria, donc cette reine qui n'arrive pas à trouver la paix, même dans l'au-delà, à cause de sa haine du marquis de Pombal. Ces deux personnages évoluent parallèlement et aboutissent à une transformation intérieure dans les deux cas.
Et oui, parce que justement, le jeune homme dans sa fuite avec son chien, et cette ânesse va arriver dans un château et va tomber sur la reine Doña Maria. Sauf que la reine Doña Maria, elle n'est pas contemporaine, elle vient de loin. Et en fait, va s'instaurer un dialogue entre cette reine et ce jeune homme. Et vous l'avez entendu expliqué par Eugène Green, il va se passer quelque chose entre deux et l'un va influencer l'autre, que ce soit le jeune garçon Gaspard et la reine, et l'inverse, la reine sur Gaspard. Et il y a quelque chose de merveilleux, de magique dans le cinéma de Eugène Green et dans ce film en particulier. Il y a la présence du merveilleux. Comment, pourquoi, la force du pardon, oui, c'est important, et peut-être arrive-t-il à faire croire, y croire en tout cas, cette force du pardon, le spectateur. Mais c'est pas évident, il faut le savoir quand on s'installe dans la salle.
Oui, c'est vraiment un ovni, soit on aime, oui, soit on n'aime pas, parce qu'on est vraiment entre la
ou même force un ovni, un objet filmique non identifié.
Exactement, oui. Ouais. Et on peut le voir à l'ABC Toulouse.
Oui. Voilà. Oui, oui, profitez-en. Voilà pour...
Et découvrir Eugène Green, que personnellement, je ne connaissais pas.
Oui, mais pourtant, ça fait...
Il n'est pas bien vert,
ça fait 70 ans. Oui, 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 il est né en 47, donc il a quelques années au compteur.
À l'affiche aussi cette semaine, Franska, d'Agnieszka Holland, hein, la fille de François Holland. Non, je plaisante. Des preuves d'amour d'Alice Douard avec Noémie Lovski. On peut voir aussi Wicked, partie 2 de John Chu. Running Man, le film d'action de la semaine d'Edgar Wright avec Glenn Powell et Josh Brolin, histoire d'un jeu de survie que Koh-Lanta à côté, c'est rien. On peut voir aussi Eleanor the Great, le premier film de Scarlett Johansson, qu'on peut voir au CGR Le Paris Montauban ou à l'Utopia Bordeaux Rouge. On peut voir aussi Shelby Hawks, un film d'épouvante de Chris Stuckman au Régent à Saint-Gaudens. On peut voir Pompéi sotto le nouveau volet. Faudrait que je révise mon italien.
Troisième langue.
Voilà, dixième. Un documentaire qui a eu le prix spécial du jury à la Mostra de Venise, là, cette année. Donc, allez-y. Un film de Gianfranco Rossi, qu'on peut voir au Cosmo à Toulouse. Et pour les plus petits, Guillaume, c'est pour vous. Première Neige, un film d'animation dès 3 ans. C'est un petit programme de court-métrage qu'on peut voir au CGR à Rodez ou à l'ABC à Toulouse. Et on peut voir une histoire de pingouins, c'est Thelma du Pays des Glaces. Et oui, il n'y a pas que les footballeurs qui sont des pingouins. Un film d'animation dès 5 ans de Reynis Kalna Ellis qu'on peut voir au Cosmo.
On peut entendre Barry Harris qui interprète, allez je me lance, Is You Is or Is You Ain't My Baby dans le film de Scarlett Johansson, pardon, Eleanor the Great. Alors, c'est le premier film de Scarlett Johansson qu'on connaît plus comme actrice, bien sûr, vous l'avez dit, Laurent. Et ici, c'est l'histoire donc d'Eleanor qui est de retour à New York après le décès de son amie Bessie et qui va s'approprier l'histoire de Bessie. Et c'est ça le risque qu'elle prend et qui peut prendre un virage particulier dans sa vie. Et elle s'approprie donc l'histoire de son amie et son histoire de rescapée de la Shoah. Autrement dit, c'est lourd à porter et difficile à justifier aussi comme mensonge. En tout cas, on entend ça, probablement dû à l'âge du personnage central. Sur Barry Harris, on glisse discrètement dans la salle d'audience du tribunal des séries pour retrouver Grégory Com, qui va vous parler des Sentinelles à voir sur Canal+.
Je déclare l'audience ouverte.
Cher Louis-Marie, alors, la semaine dernière, je vous parlais de Nero, et franchement, j'étais un peu déçu. Je me suis pas ennuyé devant cette série, mais j'étais un peu déçu. Et là, je me dis, on va faire plaisir à Louis-Marie, parce que j'aime vous faire plaisir, et vous le savez. On va parler d'une très bonne série, qui est sur Canal+, qui est une série télé française, qui est Les Sentinelles. Elle est adaptée de la bande dessinée du même nom, même si elle prend des choix un petit peu différents, mais elle reste quand même très respectueuse dans le ton et dans l'envie, et c'est une uchronie. L'uchronie, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à un moment de l'histoire humaine, ici française, on part sur quelque chose d'autre et on fait évoluer le monde différemment. Et donc, quelle est l'histoire des Sentinelles? Alors, c'est alors que la Première Guerre mondiale vient de commencer, les soldats français, le soldat français Gabriel Ferraud est grièvement blessé lors des combats. Et il est choisi dans le cadre d'une expérience ultra secrète de l'armée visant à créer des super soldats et on lui inocule un sérum qui lui donne des capacités hors normes. Là, vous allez me dire, mais c'est un petit peu l'histoire de Captain America. Vous allez voir, ça diffère un petit peu. Il est plus fort, plus rapide et plus résistant. Et donc, il rejoint en fait un groupe de super soldats, une unité d'élite. Sauf que derrière, il va avoir des bouffées de violence incontrôlables et il a un lien télépathique surnaturel avec un soldat surpuissant du camp ennemi. Et c'est là où c'est différent, c'est-à-dire qu'on va avoir une vraie violence assez dure. Attention, la série n'est pas faite pour tout le monde, c'est une série qui est sombre, qui est violente, qui peut aller assez loin. Et en plus, il y a un aspect un petit peu paranormal, en plus de ce fameux sérum du super soldat. On va être clair, déjà, c'est extrêmement bien réalisé. On est vraiment dans une production qui est de niveau cinématographique et cinématographique de très, très haut niveau. C'est très bien interprété. On a vraiment des acteurs de talent. On a une photographie qui est magnifique. Et les scènes d'action sont assez rares. Honnêtement, ce n'est pas que de la guérilla. Au contraire, il y a tout un scénario. Mais quand elles sont présentes, elles sont impactantes. Et même parfois, on se sent happé, évidemment, par à la fois la violence et la noirceur du propos. Clairement, sur tous ces points-là, c'est une réussite. Et je vais faire une petite comparaison par rapport à la série Nero. Dans Les Sentinelles, il y a de la diversité aussi. Mais elle est à chaque fois justifiée par le contexte historique, par la présence des personnes, par leur histoire. Et c'est là toute la différence. Et c'est pour ça que la diversité, quand c'est bien fait, ça marche. Parce que là, cette diversité, elle n'est pas là pour remplir un cahier des charges. Elle est là pour servir une histoire et un propos. Et quand on va suivre à la fois l'histoire du héros qui a pris son sérum, mais aussi de sa femme qui le pense mort et qui enquête, on est sur une mise en valeur d'un rôle des femmes à l'époque, notamment, c'était très rare, mais ça existait, de femmes journalistes. Et en même temps, on est là pour servir le propos et savoir un petit peu ce qui se passe derrière toutes ces expériences. Donc ce n'est pas gratuit, c'est là pour nous amener à la fois sur une réflexion globale de cette époque, mais aussi pour nous tenir en haleine sur une histoire dont on veut à chaque fois découvrir tous les méandres. Et c'est là où cette série, elle est mieux réussie. Parce qu'en fait, elle nous tient tout le temps en haleine sur pourquoi il y a ce programme, d'où il vient, à quoi il sert, pourquoi, du côté allemand, il y a aussi un super soldat, vers où on va aller, et derrière les questions éthiques. Pour gagner une guerre, est-on prêt à tout, notamment à faire des choses inhumaines, à trahir parfois ses propres troupes? C'est d'ailleurs toute la question qu'il y a sur l'analyse des tactiques de l'époque de la Première Guerre mondiale, avec souvent des généraux qui savaient très bien qu'ils envoyaient énormément de gens au casse-pipe. Là, c'est la même chose. C'est pour ça que c'est excellent et c'est pour ça que c'est une très bonne uchronie. Parce que oui, c'est fantastique. Oui, on a envie de voir l'épisode de la semaine suivante, mais ça nous pose à chaque fois les bonnes questions. Donc, Les Sentinelles, en fait, réussit là où Nero échoue à chaque fois par un bon scénario, une diversité bien incorporée et une réalisation parfaite. On est, pour moi, sur une des meilleures séries de cette année 2025. Donc, votre temps est précieux, chers auditeurs. Très clairement, je vous le conseille de dépenser devant la série Les Sentinelles sur Canal+. C'est vraiment excellent. Je vous remercie.
Le steampunk s'appelait à notre homme de loi des séries, l'uchronie aussi.
Je suis pas tout à fait d'accord avec lui. Hein. C'est pas une uchronie pour moi. Hein. Hein, c'est le steampunk.
Hein, le débat est ouvert. Ouais. Toujours est-il que nos auditeurs vont se faire une idée en allant ou simplement devant leur poste de télé, à condition d'avoir Canal+, bien sûr, pour regarder cette série qui s'intitule donc Les Sentinelles.
m'appelle Bond, James Bond. Et vous êtes sur Présence, Radio Présence.
Voilà un autre compositeur italien, mais pour une musique beaucoup plus enlevée et réjouissante. Ce compositeur italien s'appelle Lelio Luzzatti et il a composé la musique du film de Mario Monicelli, L'Arme de joie, un film sorti en 1960.
Oui, avec Toto et Anna Magnani.
Eh oui, deux monstres sacrés du cinéma italien, de la comédie italienne comme il savait si bien les faire à l'époque. Et puis il y a un jeune américain débutant dans ce film, c'est Ben Gazzara. Mais oui.
Et Toto n'arrêtait pas de faire des blagues sur le plateau.
Oui, effectivement.
C'est l'histoire d'une figurante de cinéma qui veut passer un nouvel an, un beau nouvel an, et puis finalement elle va rencontrer Toto.
Qu'un ami. Au départ, elle pense qu'elle est invitée dans une soirée huppée. Et en fait, elle a été invitée parce qu'ils étaient un nombre impair.
Ah oui.
Et ils ne voulaient pas. Et donc, ils n'ont trouvé qu'elle à inviter.
C'est comme ce parti, quoi.
Voilà, par hasard. Et puis, ça va partir dans tous les sens. Et justement, on va suivre ces deux personnages. Umberto Penazzuta di Infortunio, et c'est Toto, et Giorgia Fabricotti di Tortorella.
Voilà, c'est un film des plus acerbes et des plus amers sur la comédie italienne.
Ça marche plutôt bien. Alors, il y a une petite pique à Fellini, parce qu'à un moment, pour l'invitation, elle est brune. Elle s'est teinte en blonde ou elle a mis une perruque, elle a une tenue qui fait penser à celle d'Anita Ekberg. Et comme elle est du côté de la fontaine de Trévi, il y a un touriste américain qui veut la jeter dans l'eau pour aller aussi dans la fontaine.
Mais
qu'est-ce qu'ils ont ces Américains à vouloir se baigner dans la fontaine de Trévi?
Oui. La Dolce Vita.
La Dolce Vita, oui, c'est ça. Le film, vous pouvez voir L'Arme de joie, au cinéma VO de Muret, dimanche prochain, 23 novembre, à 18h20. Et écoutez, je vous fais écoutez bien ce morceau.
How young our love was, time came between us, and soon looking from the outside in. Two lonely strangers.
Cette musique a été composée par Carmine Coppola et qu'il chante aussi. C'est lui qui chante. Et savez-vous qui est Carmine Coppola? Il n'est rien d'autre que le père de Francis Coppola. Et c'est lui qui avait écrit la musique de Outsiders, sortie en 1983. Alors, juste une petite parenthèse sur Carmine Coppola, bon, qui est donc le père de Francis Coppola, très célèbre. Il est aussi le papa de Talia Shire. Peu de monde, on le sait moins. Vous savez qui est Talia Shire?
Rappelez-nous.
Ben, c'est Adrienne dans Rocky. Et oui.
Ah oui.
Et il
moi
a un
petit.
Il a un autre fils, Auguste Coppola, qui lui est devenu prof de littérature et qui a un fils, Nicolas Cage.
Et ils ont une petite fille qui s'appelle Sofia Coppola.
Exactement. Voilà. Revenons à la musique qui nous intéresse, à Outsider. On est dans les années 60. Alors le film là ne date pas des années 60, il a été tourné en 1983 et il met en scène donc dans les années 60 à Tulsa dans l'Oklahoma deux bandes de jeunes de quartier. Il y a les Greasers et puis il y a les Sox, et qui s'affrontent. Les Greasers, c'est ceux qui sont du quartier populaire, et les Sox, c'est ceux qui sont qui sont du quartier bourgeois. Évidemment, il va y avoir une bagarre qui va mal se passer, et puis un des Greasers va tomber amoureux d'une jeune fille.
Ça rappelle une comédie musicale, ça,
ouais,
forcé.
Mais alors, c'est Coppola qui le raconte et c'est formidable. Et alors, tenez-vous bien, film de 83, et je vais vous dire le nom des interprètes, et là, il faut être bien assis. Il y a Matt Dillon, Thomas Howell, Ralph Macchio, Patrick Swayze, Rob Lowe, Emilio Estevez et Tom Cruise.
À tous les beaux gosses des années 80, quoi.
À l'exception de Patrick Swayze, qui avait déjà 30 ans, ouais, tous les autres avaient à peine 20 ans. Ah oui. Et j'ai oublié Diane Lane, qui, elle, n'a que 17 ans dans le film. Vous voyez, le vivier d'acteurs
qui allaient éclater,
ouais, extraordinaire, ouais, et qui prêtent leur visage à ces... assez gamins de quartier défavorisé, et ça marche, ça, oui, fonctionne.
Il est peu connu, ce film de Coppola, ouais, faut le découvrir. Hein.
Outsiders, donc à voir à l'ABC à Toulouse, c'est dimanche 23 novembre à 18h. Une dernière curiosité, El Topo d'Alejandro Jodorowsky, c'est le plan culte de nos amis du CGR de Rodez, et c'est pour quand, mardi 25 novembre, 20h, un film complètement fou de Jodorowsky, qui interprète le rôle principal, un pistolero, c'est impossible à résumer, c'est une espèce de western mythologique baroque, complètement dingue. Et puis, dernière chose à savoir, Retour vers le futur 3, on vous avait parlé des deux premiers, vous pouvez voir le dernier volet jeudi prochain, 20 novembre, à 19h45, alors là, en VF, à la beige, le pâté, et en VO, à la même heure, au Wilson, toujours le pâté. Oppenheimer est au Pâté la Belge, lundi 24 novembre, en VO à 21h, et le cinquième élément au Pâté Wilson, le même jour, en VO à 19h30. Voilà pour le grand écran, pour le petit, c'est avec vous, Laurent.
Le cinéma, la télévision, ça commence dès jeudi sur France 4 à 21h avec Grand Central de Rebecca Zlotowski avec Tahir Rahim. Et et Olivier Gourmet, j'ai raté son prénom. Au cœur d'une centrale nucléaire, Gary, jeune homme sans qualification, se retrouve propulsé dans un environnement hostile. Il découvre un univers régi par des règles strictes et des risques permanents. Rebecca Zlotowski signe une œuvre envoûtante aux propos sociaux forts dans un lieu peu traité au cinéma, hein, une centrale nucléaire. Vendredi, 21h sur France 5, un chef-d'œuvre, Au revoir les enfants de Louis Malle. De 1987. Nous sommes à l'hiver 44 dans un collège catholique isolé près de Fontainebleau. Deux mondes vont se rencontrer. Julien, un jeune garçon bourgeois, et Jean Bonnet, un garçon réservé aux yeux tristes sous la bienveillante mais ferme autorité du père Jean. Lion d'or à Venise, un chef-d'œuvre d'émotion. À noter que le film sera suivi d'un documentaire, Louis Malle, le révolté, de Claire Duguay. Samedi, France 4, 21h, en même temps, de Gustave Kervern et Benoît Delépine, pensé et tourné comme un tract politique lors d'une année d'élection présidentielle, une comédie fort bien vue et portée par l'excellent duo Jonathan Cohen et Vincent Macaigne. Dimanche, W9, à 20h50, ce sera Mon garçon, de Christian Carion, avec Guillaume Canet et Mélanie Laurent. Le fils de Julien, âgé de 7 ans, a disparu lors d'un voyage scolaire. Il va mener l'enquête. Si le scénario de ce thriller n'a rien d'inédit, son traitement, en revanche, a le mérite d'être fort original, jouant la carte de l'improvisation. Lundi, sur Arte, à 21h, ce sera Le rideau déchiré, un petit Hitchcock, hein, de 1966, avec l'excellent Paul Newman et Julien Drews. Histoire d'un physicien qui décide de passer le rideau de fer pour se mettre au service de l'URSS. Un suspense savamment mené avec des séquences d'anthologie. L'évasion en autocar, le meurtre, enfin bon. Et un Paul Newman parfait comme d'habitude. Un film à revoir. Et je passe le ballon à Guillaume pour le conseil de lecture.
Oui, juste d'abord, Diego Maradona, documentaire d'Asif Kapadia, à voir vendredi 22h35 sur Arte, centré sur sa période napolitaine. Excellent documentaire. Et puis mon conseil de lecture, que je vous emprunte, Laurent, avec plaisir. Une magnifique et passionnante bande dessinée, L'étranger, signé Jacques Ferrandez, alors que l'excellent film de François Ozon, d'après évidemment le roman d'Albert Camus, dans nos salles obscures, Jacques Ferrandez nous offre une relecture passionnante de L'étranger en bande dessinée, sans en épuiser le mystère pour autant. Art de la mise en scène, luminosité des aquarelles, richesse des décors, et le spécialiste de l'Algérie coloniale qu'il est restitue avec force et fidélité la dramaturgie du récit, autant que sa portée symbolique à retrouver. Pour 22€ aux éditions Gallimard, Noël approche à grands pas, une excellente idée de cadeau pour vos proches. Et tenez, Laurent, je vous l'offre.
Oh ben c'est gentil, merci.
Excellente lecture.
Mais vous savez qu'avec un bon agent, en 3 mois, on monte une tournée, hein ?
Vous savez ce qu'il vous reste à faire, Guillaume Sidom, une tournée. À ce propos, c'est la tournée maintenant. Quels sont vos coups de cœur, messieurs ?
Les coups de cœur, Dossier 137, Jean Valjean et Running Man.
Dossier 137, Franz Kahl, Larmes de joie, Les œillades, le festival d'Albi jusqu'au 23 novembre. Blowout, évidemment, dans le cadre du remake. Et puis la 18e édition du festival du film polonais Kino Polska jusqu'au 22 novembre prochain.
Pour moi, ce sera Dossier 137 de Dominique Moll, Des preuves d'amour d'Alice Douard, Outsider, bien sûr qu'il ne faudra pas manquer, à l'ABC à Toulouse dimanche prochain, et puis Les œillades à Albi. Et puis une dernière chose, je suis passé vite sur les reprises sur le grand écran, il y a dans le cadre de remake de la Cinémathèque Les Proies, un remake de Sofia, signé Sofia Coppola, du film de Don Siegel, l'histoire de ce soldat nordiste recueilli dans un pensionnat de jeunes filles sudiste.
Et Drive. Et Drive.
Mais là, je pense aux Proies, pas à Drive. Messieurs, merci.
Bonne soirée, merci à vous.
À mercredi.
On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine, sinon à 20h, il y a Nathalie Cardon. Salut.
Partez à la découverte des sujets qui animent la presse chrétienne sous un nouveau jour. Je vous guide à travers les articles les plus